Rapport de voyage à travers les océans. Une chronique en partenariat avec French Lines et présentée par André Bignot.
La Scandinavie et ses mers environnantes sont l'objet depuis longtemps de croisières très prisées, notamment à la belle saison. Cependant, l'on sait qu'aujourd'hui, la mode viserait plutôt l'absolu et les sensations fortes qui fassent du touriste davantage un explorateur, voire un aventurier, qu'un simple excursionniste béat. Cela n'excluant pas au demeurant l'exigence d'une sécurité absolue. Audacieux, mais pas téméraire. Ce qui suit ne veut pas ironiser sur ces navigateurs d'occasion, mais simplement revenir à l'existence beaucoup plus prosaïque des marins qui vont là où on leur demande. Voici donc un banal périple dans l'immédiate après-guerre, lorsque les conditions de navigation restent peu ou prou celles des années précédentes. Ce qui en diffère principalement est de ne pas être coulé intentionnellement par l'ennemi, quoique beaucoup de mines et autres engins de mort demeurent à l'affût sous les eaux. Auxquels l'on peut ajouter les rigueurs climatiques comme si la nature aimait, en ces temps encore incertains, d'y mettre aussi son grain de sel. Ainsi, lorsque le 23 janvier 1947, dans l'après-midi, le tanker britannique British Glory quitte Allège Falmouth pour Londres, puis la Baltique, la mer n'est pas engageante. Ça secoue, il fait diablement froid. Appartenant à la British Tanker Company, la fameuse BP, et datant de 1928, il peut embarquer environ 10 000 tonnes de pétrole, mais sa vitesse avoisine 11 nœuds. Il remplace alors au pied levé une autre unité de la compagnie qui justement vient d'être victime d'une mine sous-marine dans le détroit séparant le Danemark de ses voisins du Nord. Après presque 2 jours en manche passée à être chahuté, c'est dans la brume, le 25 dans la nuit, qu'il jette l'ancre dans la Tamise. Après quoi, en matinée, il va s'amarrer à un appontement pour charger. Désormais, la neige tombe copieusement, le froid est sibérien. Dans la nuit, 5 hommes de l'équipage partis à terre en goguette retrouvent leur navire très écarté du quai. La marée est au plus bas, la passerelle ôtée. Ne leur reste plus qu'à aller frapper à la porte d'une auberge des environs où 2 antiques lits de style victorien à 4 places leur sont attribuées. Au matin, la situation n'est guère plus favorable, tout est recouvert d'une épaisse couche de neige et c'est à la grue du bord qu'ils sont finalement pêchés un à un sur le terre-plein. Les cuves sont pleines. Destination Stockholm en Suède. C'est l'appareillage en matinée dans un blizzard des plus opaques. Or, à l'époque, rares sont les navires pourvus d'un radar. Notre pétrolier en aurait-il un, d'ailleurs, que son aide serait illusoire dans la circonstance. La descente vers l'estuaire s'effectue donc comme à tâtons, en appréhendant particulièrement les navires qui remontent le fleuve. La silhouette d'un grand paquebot d'Australie pour Tilbury passe ainsi à toucher dans un mugissement de sirène. Juste remis en état, celui-là va reprendre son service du temps de paix. Temps détestable en mer du Nord également. Le British Glory est en bas sur l'eau, la mer s'invite à bord. La température, elle, ne s'adoucit pas. L'eau glacée s'insinue à même la peau, les yeux piquent, on ne distingue pas grand-chose. Bien que le trafic soit clairsemé et que les pêcheurs aient dû relâcher, un homme stoïque et raide comme une statue de glace veille sur la plage avant. Parvenu au large de la Frise hollandaise, où un cordon d'îles basses dessine vaguement la côte, la route est infléchie vers l'embouchure allemande de l'Elbe. L'intention est d'emprunter le canal de Kiel, cette voie dérobée, pourrait-on dire, qui, à travers le Holsten, permet d'atteindre la Baltique. Bref, c'est un raccourci sans la tempête du large. Enfin, le croit-on. Après que le pétrolier, assisté de ses remorqueurs, s'est immobilisé dans l'écluse de Brunsbüttel, donnant accès au canal, la visibilité est devenue trop mauvaise pour poursuivre. Aussi doit-on ressortir en rivière et regagner la mer du Nord. Direction donc le Skagerrak, le Kattegat et le Sund qui séparent le Danemark de ses voisins du Nord. Ces détroits franchis avec l'aide d'un pilote, le tanker mouille devant Malmö où il s'allège sur un petit caboteur qui va livrer à la côte. Plusieurs navettes sont ainsi effectuées et le 4 février l'entrée virée. Le British Glory apparaît à nouveau pour Stockholm un peu moins lourd de pétrole. Maintenant il navigue réellement en Baltique. Le froid est si intense que les sabords de passerelles doivent demeurer ouverts pour éviter la condensation. Une épaisse couche de glace enserre le navire, dont il ne se libérera qu'au bout de 3 heures de route. Des navires moins chanceux sont d'ailleurs bloqués à distance vers le sud. Le jour suivant, le mauvais temps revient. Avec lui, les bourrasques de neige, les vagues déferlant sur le pont, malgré l'allègement effectué la veille. Le lendemain, bien opportunément, le pilote de Stockholm embarque. Désormais, un brise-glace ouvre un chenal devant. Malgré toute l'attention que réclame la navigation, les fjords enneigés offrent un spectacle vraiment grandiose. Enfin, dans l'après-midi, Stockholm apparaît au loin. Le pétrolier jette l'ancre à quelque distance de la ville, où le déchargement va s'effectuer vers d'énormes citernes accrochées à flanc de colline. L'escale dure 3 jours. Le 10 février, alors que les opérations commerciales s'achèvent, l'information tombe que l'importance de la glace à l'extérieur interdit le départ, que le tanker va devoir patienter sans doute plusieurs semaines. Comme il y faut libérer l'appontement, le voici gagnant un poste d'attente, non sans d'énormes difficultés. Là, il s'amarre à couple de 2 caboteurs suédois. En fait, l'attente va durer 9 semaines. Sévissent en Europe du Nord vers cette époque de très froids hivers, particulièrement en Scandinavie. Ce n'est que le 16 avril, son plein de combustible effectué, que le retour peut commencer. Encore un brise-glace est-il encore devant pour lui tailler la route, lui, le collant au trintant, la banqueuse a vite fait de se refermer derrière eux. Même une fois laissé libre par son ange gardien, la situation est encore loin d'être gagnée. Son étrave se fraye un chemin comme elle peut dans un bruit de concassage infernal. Dans le poste d'équipage, encastré dans les formes avant, où les hommes mangent, dorment, le fracas est tel qu'ils ne peuvent seulement s'entendre parler. Mais la mer du Nord est retrouvée à la sortie du Skagerrak, et elle, au moins, elle n'est pas gelée. L'on ne pense plus désormais qu'à l'arrivée au pays. Tout paraît rentrer dans l'ordre lorsque soudain une entrée d'eau est découverte. Elle résulte évidemment des jours passés, mais il faut cependant l'étaler. Mais il est dit que ce ne sera pas tout. Sitôt le Pas-de-Calais atteint, voici que s'abat une piole d'ouest de tous les diables. C'est la gigue à nouveau, qui va même empêcher le British Glory d'entrer à Falmouth, le forcer à faire des ronds dans l'eau en attendant qu'elle veuille bien s'atténuer. Bref, pour conclure, un bien long voyage tout de même. Sans aurore boréale, sans pingouins, sans cocktail, mais sans mine non plus, vous direz. Parce que là, ça eût pu être pire.
C'était Rapport de voyage à travers les océans, une chronique en partenariat avec French Lines et présentée par André Bignot.